Savais-tu qu'avant d'être pasteur, j'étais informaticien? Ouais, j'étais créatif, mais il y avait beaucoup, beaucoup de logique. Zéro ou un. Vrai ou faux. Si quelque chose fonctionnait pas, il devait avoir une explication. Pour que quelque chose fonctionne très bien, il devait avoir une bonne raison, qui était toujours valide. J'ai travaillé longtemps à Statistique Canada, où on lésine pas sur les méthodes mathématiques pour s'assurer que les données sont vraiment crédibles. Et on produisait jamais une analyse ou une observation avant de s'assurer de bien des façons que ce qu'on disait, c'était vérifiable et vrai, que c'était assez significatif pour représenter la vérité. Quand j'ai annoncé que je voulais devenir pasteur, les gens n'étaient pas surpris. Les gens n'avaient pas l'impression que je faisais une grosse grimace à la science. Aujourd'hui, je réponds à trois de vos questions qui tournent autour du thème de la science et de la religion. Est-ce que la science est incompatible avec la religion? Comment est-ce qu'on peut être chrétien et croire à l'évolution en même temps? Et si l'être humain est descendant d'une autre créature, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est fait à l'image de Dieu, comme c'est écrit dans la Bible? Bienvenue à Mon ami pasteur en balado-diffusion. Si tu cherches à grandir en spiritualité chrétienne sans la politique des églises, je suis ton homme. J'aime partager des idées, des questions et des réponses authentiques et faciles à comprendre, sans jamais juger ni exclure personne. Je m'appelle Étienne Lesage et je suis un vrai pasteur, maintenant sans église, et je te pousserai jamais à y aller, c'est promis. Je serai content d'être tout simplement ton ami pasteur. Viens, on va jaser un peu. Salut mon ami, je suis content de passer du temps avec toi encore aujourd'hui. Et comment ça va? Moi, je suis plein de gratitude cette semaine parce que j'ai enfin reçu mon vaccin contre la COVID-19. Je fais partie de la population très vulnérable et ça me rassure un peu. Je veux communiquer ma gratitude à tous les scientifiques qui ont travaillé d'arrache-pied avec toute la rigueur qu'on leur connaît pour s'assurer qu'on a quelque chose pour protéger la population contre ce virus qui fait des ravages et qui est malheureusement pas pris au sérieux par tout le monde. Je veux remercier aussi les travailleurs essentiels partout, ainsi que ceux qui sont pas scientifiques, mais qui, à chaque jour, prennent bien soin de transmettre l'amour de Dieu autour d'eux, dans cette période où nos muscles de foi et d'espoir sont plus fragiles. Merci beaucoup à tout le monde. Allons-y avec nos questions maintenant. Première question, est-ce que la science est incompatible avec la religion? Est-ce que la science dit que Dieu n'existe pas? La réponse, c'est non et non. La science observe, expérimente et tire des conclusions sur le monde naturel. La religion et la spiritualité s'occupent du monde surnaturel, le monde qui est au-delà de la nature. Elles ont quelques points d'intersection, mais essentiellement, elles n'observent pas la même chose. Je vais te donner un exemple. Je pense que ça vient de Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique. Il vivait dans les années 1200, mais c'est encore très, très pertinent pour aujourd'hui. Imagine dans ton esprit une feuille de papier. Il y a trois choses sur la feuille de papier. D'un côté, à gauche, il y a un archer qui vient de tendre son arc et de lancer une flèche qui est au centre de la feuille. Et de l'autre côté, il y a une grosse cible vers laquelle elle se dirige. La science est capable de s'intéresser, d'observer et de prédire le comportement de la flèche. Parce que des flèches, elle en a vu beaucoup. Qu'est-ce qu'elle peut déterminer sur la flèche? Par exemple, sa direction. On peut déterminer sa vitesse actuelle et combien elle va accélérer ou ralentir en fonction de la pression du vent ou des forces gravitationnelles. On peut comprendre sa couleur. Elle est mauve parce qu'on sait que ça a été obtenu avec du rouge mélangé avec du bleu. En fonction de sa force, on peut déterminer si quelqu'un risque de mourir ou d'être en danger grave si cette personne est frappée par la flèche. Tout ça, c'est grâce à la science. Mais la science est seulement capable d'observer la flèche. La science ne connaît rien au sujet de l'archer, alors que la religion dit que l'archer, c'est Dieu. Et la science connaît rien non plus sur la cible. Dans les années 1700-1800, dans l'ère qu'on appelait le siècle des Lumières, il y a beaucoup de scientifiques qui n'étaient pas seulement à la recherche d'explications sur le monde naturel, mais aussi sur Dieu. Et certains, comme Francis Bacon ou Isaac Newton, pensaient que s'ils arrivaient à observer et expliquer en détail les lois de la nature, forcément, ça les aiderait à observer le créateur de ces lois. Ils pensaient qu'en réussissant à généraliser la science, ils finiraient par être capables de comprendre ou d'observer Dieu un peu mieux. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent de la part des scientifiques aujourd'hui qui font pas nécessairement de la science pour connaître Dieu. Tu vas en entendre beaucoup qui vont dire « Désolé, moi je suis un scientifique et parce que je suis un scientifique, je peux pas croire en Dieu. » Ben, c'est une affirmation un peu douteuse parce que la science n'est pas vraiment en mesure de prouver qu'il y a un Dieu ou qu'il n'y en a pas. L'énoncé serait plus juste si la personne disait « Désolé, moi je suis un scientifique et j'ai beaucoup de mal à croire ce que la science ne peut pas prouver. » Ça serait une affirmation plus juste. Et ça, c'est quelque chose qui leur appartient. On peut très bien s'émerveiller des grands phénomènes naturels et s'émerveiller de Dieu aussi, alors qu'on cherche un peu plus. Les églises commencent de plus en plus à le comprendre. Mais au début, l'Église a écrasé les scientifiques, probablement parce qu'elle se sentait insécure. Et aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui ont beaucoup de mal avec les notions scientifiques. Et je pense que c'est pour les mêmes raisons. Le but ultime des religions et de la spiritualité, ça a toujours été d'être en relation avec ce qui est plus grand que nous. Et dans le cas de la religion, ben avec un créateur ou une créatrice, bien sûr. Le plus important pour un chrétien, une chrétienne, c'est de savoir que Dieu les aime et qu'il y a une raison pour leur existence. Si Dieu m'aime, si Dieu me trouve personnellement important, ben à ce moment-là, il faut que j'aie une position centrale avec Dieu. Si Dieu m'aime, il faut que je vive sur une planète qui est au centre de l'univers. Si je suis vraiment un enfant de Dieu et qu'on m'a nommé gardien de la terre et toute la création, ben c'est moi qu'il faut qu'il règne sur tous les animaux. Je peux bien faire ce que je veux avec l'environnement aussi. Si Dieu m'aime et voulait que je vive même avant que je naisse et qu'il m'a créé à son image, ben je peux pas être originaire d'un singe des milliards d'années. C'est pas moi ça. Puis dites-moi pas que je suis issu de quelque chose de aléatoire ou du hasard. Je suis spécial, moi je suis unique. Ces préoccupations nous conduisent à ma deuxième question. Est-ce qu'un chrétien peut croire en l'évolution? La réponse c'est oui, puis c'est pas une question de croyance, c'est une question de fait scientifique. Il y a des gens qui écartent complètement la théorie de l'évolution parce qu'ils disent ben le nom le dit, ce n'est qu'une théorie. Dans ce temps-là, on a une confusion sur la notion de théorie. C'est vrai que dans le langage commun, dans tous les domaines à l'extérieur de la science, maintenant on a souvent tendance à utiliser théorie comme un synonyme d'idée. « Ah, j'ai une théorie là-dessus, moi. Sais-tu ce que j'en pense? » C'est une opinion. Mais une théorie scientifique, ah là, c'est une autre paire de manches. Je voudrais te proposer trois niveaux de certitude en science. Bon, puis pour m'aider, je m'inspire de ce qui est expliqué par le musée de paléontologie de l'Université de Californie. Premièrement, il y a l'idée, ce qu'on appelle en anglais un « guess », une estimation qui n'a pas été vérifiée du tout. Ensuite, deuxième niveau, il y a l'hypothèse. Une hypothèse, c'est une explication qu'on réussit à donner pour expliquer un phénomène en se basant sur des faits scientifiques. Pour qu'un fait soit considéré scientifique, il faut que ça se concentre sur le monde naturel. Il faut que ça vise à expliquer le monde naturel. Ça utilise des données qui sont testables et ça se base sur des preuves. Ça implique pas seulement qu'une seule personne, mais toute la communauté scientifique. Et ça permet de continuer la recherche pour des applications futures. Ça conduit à plus de recherches. Prenons par exemple des scientifiques qui observent une espèce de papillon alpin, qui vivent en plus haute altitude, et qui se rendent compte que c'est intéressant. Et ces papillons ont des caractéristiques intermédiaires de deux espèces de papillons différents qui vivent en plus basse altitude. Sachant cela, les scientifiques pourraient émettre une hypothèse qui dit qu'il est raisonnable et crédible de croire que une nouvelle espèce a été créée à partir des deux espèces de papillons jusqu'à ce qu'ils soient tellement différents qu'ils ne puissent plus se reproduire ensemble. C'est ce qui a créé l'espèce des papillons alpins, qui à partir de maintenant vont continuer d'évoluer sans la contribution de leurs ancêtres. C'est une hypothèse parce que ça se concentre sur six espèces de papillons. Quand on passe au troisième niveau, qui est la théorie scientifique, alors une théorie scientifique, c'est un ensemble d'hypothèses qui sont valides et crédibles et qui peuvent s'appliquer à plusieurs domaines au-delà de ce pourquoi elles ont été observées initialement. La théorie d'évolution et de la sélection naturelle des espèces, c'est une de ces théories qui s'applique non seulement au monde végétal, animal, mathématique, et qui a même conduit à la représentation des bits en mémoire d'un ordinateur afin de créer l'informatique. Une théorie n'a pas besoin d'être complète pour être valide, mais il y a tellement de prédictions justes qui peuvent être établies avec elle qu'il y a très très peu d'exceptions. Malheureusement, ces concepts scientifiques sont pas tellement publicisés ou connus parce qu'on en entend parler pas mal juste à l'école secondaire. Puis ensuite, si on s'intéresse pas à la science, on oublie. Et avec ces nouveaux concepts, les églises ont arrêté... Il y a encore du chemin à faire, là. Les églises ont arrêté de voir les scientifiques comme leurs ennemis jurés. Mon église, par exemple, a aucun problème avec l'évolution. À cette fin, on peut dire merci à plusieurs prêtres dans le temps le siècle des Lumières. Et même après, je pense à Pierre Taylor de Chardin en France. De Chardin, pas des Jardins. De Chardin. Pierre Taylor de Chardin, qui était géologue et paléontologue et qui faisait des voyages un peu partout au monde parce qu'on connaissait sa rigueur pour observer les choses et il s'en laissait pas passer. C'était un jésuite et les jésuites, ils sont très intellectuels et spirituels. Pierre Taylor de Chardin a même écrit des choses merveilleuses au sujet de Dieu et de la nature qui sont au fondement de la spiritualité chrétienne. Et à ce que je sache, à son époque, il n'y a pas personne qui lui a dit de se taire. Pour d'autres chrétiens, la résistance à l'évolution, c'est pas une question rationnelle, c'est affectif, c'est émotif, psychologique, parce que leur foi est très importante pour eux et ils ne veulent pas risquer de la fragiliser. Ils trouvent que c'est pas vraiment édifiant pour la foi de se faire dire qu'on vient d'un singe. Mais encore là, c'est un manque de compréhension. La théorie ne dit pas que l'espèce humaine descend du singe. La théorie dit que si on remonte dans l'arbre généalogique, dans l'arbre biologique assez loin, on va trouver que le singe et l'humain ont déjà eu auparavant un ancêtre commun jusqu'à ce que l'espèce se différencie, comme c'était le cas pour les papillons. Il y a aussi des chrétiens qui détestent la théorie de l'évolution parce qu'ils ont besoin de savoir qu'ils ont été créés comme ils sont maintenant grâce à l'intelligence et à la sagesse incroyable et l'amour de Dieu qui voulait qu'ils soient comme ils sont maintenant. Ils veulent être le fruit de l'intelligence de Dieu, pas du hasard. Il y en a qui préfèrent prendre toutes sortes de chiffres qui sont dans la Bible seulement à titre symbolique pour dire, par exemple, que le monde a été créé en seulement 7 jours. 7, c'est souvent un code dans la Bible pour dire longtemps. Et oui, ça fait partie de l'histoire de la création qui est dans la Bible, mais on sait que cette histoire, c'est un mythe. Un mythe, c'est pas basé sur les faits, c'est basé sur un paquet de vérités spirituelles qu'on veut que l'histoire transmette au sujet de nous et de Dieu. Ces mêmes personnes qu'on appelle les créationnistes parce qu'ils préfèrent l'histoire de la création à la théorie de l'évolution calculent aussi que la Terre devrait avoir seulement 10 000 ans versus des milliards d'années selon ce que la théorie de l'évolution dit, et qui insiste sur une notion qu'ils appellent le design intelligent, en parlant de l'intelligence de Dieu qui a été appliquée complètement dès le départ et qui aurait produit toutes les espèces que l'on connaît, directement comme ils sont aujourd'hui, et que la création d'une espèce ne peut pas se produire sans l'intervention directe et complète de Dieu. Il rejette aussi une idée qui suggère que Dieu puisse être à l'origine de toutes les lois de la nature qu'on continue de découvrir, mais qu'il n'a pas besoin de les interrompre constamment, un peu comme quand on fait des macros ou des raccourcis sur nos ordinateurs. Bon, encore l'informaticien qui se pointe le bout du nez. Bon, sérieusement, ça peut expliquer pourquoi certaines personnes peuvent résister à l'idée de l'évolution? Quand j'entends les scientifiques maintes et maintes fois leur répéter « Ben voyons, la Terre n'a pas 10 000 ans, la Terre a des milliards d'années. » Puis l'espèce humaine compte seulement pour 1% de toutes les espèces que la Terre a vues avant nous. Quand je porte mes deux chapeaux de scientifique et de pasteur, j'ai envie de dire mais qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est vraiment important de déterminer combien d'années ça a pris à Dieu pour amener la création à l'étape où elle est maintenant? Qu'est-ce que ça change que Dieu ait pris 10 000 ans ou des millions d'années pour nous concevoir et concevoir son plan pour nous? Un plan qui n'est pas fini, qui n'est pas complet. C'est un plan rempli d'avenir et d'espoir. Rappelez-vous, on est sur la flèche, on la voit pas, la cible. Je pense qu'on calcule toujours la valeur du temps en fonction de notre espérance de vie. On ne pourra pas vivre assez longtemps de toute façon pour être témoin de la prochaine étape de la théorie de l'évolution. Non, on utilise la durée de notre vie pour observer tout ce qu'on peut et comprendre mieux. On le fait à l'aide de tout ce qu'on a dans notre arsenal qui est dû au travail des scientifiques qui étaient là avant nous. Pense à toutes les lois de la nature, là. Et à quel point nos systèmes organiques, la médecine, la chimie, la physique, les mathématiques, la musique. C'est assez incroyable que tout fonctionne ensemble. C'est un système tellement brillant et complexe, c'est pas aléatoire du tout. Toi non plus, tu n'es pas le fruit du hasard. Qui est-ce qui dit que tu pourrais pas être le fruit de lois qui ont été conçues par un Dieu tellement intelligent? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de conflit là-dedans. Peut-être que tu vas me dire, oui, mais Étienne, Est-ce qu'il faut croire que ce que la Bible dit, c'est pas vrai, qu'on est fait à l'image de Dieu si on vient d'un ancêtre animal et que les espèces sont toujours en train d'évoluer sur les tonnes d'années? Si je suis même pas un produit fini, comment tu peux dire que je suis fait à l'image de Dieu? Ah! Ça, c'est une Moses de bonne question. Mon ami, ça n'a rien à voir avec le nombre de bras, de jambes ou d'yeux que tu peux avoir. Tu es fait à l'image de Dieu maintenant parce que tu partages trois caractéristiques avec Dieu. Au moins trois. OK? La première, c'est que, comme Dieu, tu es une créatrice, tu es un créateur. Tu es capable de créer, tu as de l'influence sur ton environnement. Tu as un impact, même si tu ne peux pas toujours le voir. Deuxièmement, tu es comme Dieu parce que tu es vulnérable. Hein? Là, il y en a qui me disent, ben, comment ça se fait? Voyons, Dieu tout-puissant, vulnérable? Ben oui, mon ami. Si tu ne penses pas que Dieu est vulnérable, regarde Jésus sur la croix. Il n'y a rien de plus vulnérable que ça. Et troisièmement, tu es fait à l'image de Dieu parce que tu es interdépendant. Dieu dépendait de Jésus et Jésus dépendait de Dieu. Tu as besoin de Dieu et Dieu a besoin de toi. Hein? As-tu déjà pensé à ça, mon ami? Dieu a besoin de toi. Ben oui, c'est vrai, pense-y. Dieu et Jésus continuent de nous appeler à faire équipe avec eux pour réaliser leur vision pour notre futur de justice, d'amour et d'espoir. Puis ça avance plus vite quand on accepte d'être les bras et la voix de Dieu, quand on accepte de laisser notre foi et les enseignements de Dieu changer notre comportement aujourd'hui et puis avoir une bonne influence sur les autres. On est tous supposés être interdépendants. C'est pour ça que Jésus faisait des miracles pour guérir les gens. Pas parce qu'ils n'aimaient pas les maladies, mais parce qu'ils voulaient qu'ils puissent dépendre de leur communauté et que leur communauté dépende d'eux encore, au lieu d'être rejetée. Mon ami, as-tu vraiment besoin que la science te dise que tu es au centre d'absolument tout pour sentir que peu importe comment tu es arrivé ici, qu'une force, qu'un amour, qu'une intelligence plus grande que toi voulait que tu existes? Tu n'es pas une personne aléatoire, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es le produit d'une myriade d'histoires et de lois de la nature magnifiques qui font partie de ton corps, qui font partie de ton âme et qui t'ont été transmises par tes ancêtres. Que tu les connaisses ou non, que tu leur ressembles ou non, continue de t'émerveiller sur ce que tu comprends et d'être assez curieuse et curieux pour être en présence de ce que tu comprendras un jour. Si tu veux en savoir plus sur les choses dont j'ai parlé, j'ai laissé quelques références dans la description de cet épisode. Porte-toi bien, mon ami, et souviens-toi que tu es béni. C'était Mon ami pasteur avec Étienne Lesage en balado-diffusion. Si t'as aimé ce que t'as entendu, donne-nous une bonne note ou une évaluation sur ton appli préféré et abonne-toi pour ne pas manquer aucun épisode après leur publication. Si tu veux m'écrire pour des questions ou des commentaires, rends-toi sur mon site web à www.monamipasteur.com. J'ai bien hâte de te lire et de te retrouver la prochaine fois. À bientôt!